Ce soir, nous accueillons donc M. Mishka Assayas, qui vient faire une conférence sur le rock comme mythologie contemporaine, du Mississippi au Megastore. Donc Mishka Assayas est né en 58 à Paris. Il est ancien élève de l'École normale supérieure et il a collaboré à trois grandes revues, Les Inrecuptibles de 88 à 96, Libération de 85 à 95 et Rock and Folk de 1980 à 1988. Il a publié deux romans chez l'Arpenteur Gallimard, Les années vides en 1990 et Dans sa peau en 1994. Et surtout, ce qui nous a poussé à l'inviter, c'est la parution donc, de ce dictionnaire du rock qui est sorti chez Bouquin dans le courant de l'année et qui est le premier dictionnaire sérieux, entre guillemets, si on peut dire, sur le rock, et qui recense donc tous les groupes de rock du Mississippi au Megastore. Vous avez donc des articles très détaillés et je vous le conseille donc comme vos cadeaux de Noël puisqu'il a été sélectionné comme les 20 meilleurs livres de l'année, toutes catégories confondues, par la revue Lire. Voilà, donc je vous remercie d'être venu et je lui laisse la parole.
Ben, écoutez, je remercie cette prestigieuse institution d'accueillir le rock dans ses murs, déjà. Vous savez que la question que j'entends le plus souvent, celle qu'on pose donc au coordinateur de cette fresque de près de 2300 pages, donc depuis qu'elle a été publiée au mois de mars dernier, fruit de 5 années de labeur, ça tourne toujours autour du même point, c'est comment avez-vous délimité votre territoire ? En somme, puisque ce continent, on pourrait même dire cet empire qu'est le rock, semble aussi vaste, sait-on avec certitude d'où il est parti, d'où il prend sa source et jusqu'où il est arrivé ? Bon, alors, ma réponse synthétique et succincte, elle est contenue dans le titre de cette conférence, c'est il est parti des rives du fleuve Mississippi, qui draine les États du sud-est des États-Unis, et il est arrivé au Megastore, c'est-à-dire dans ces immenses surfaces du disque, quelle que soit d'ailleurs leur raison sociale, qui maintenant sont familières dans nos grands centres. Mais ce que je voudrais dire d'emblée, tout de suite, c'est que le rock n'aurait pas pu suivre ce parcours de conquête absolument exceptionnel s'il n'avait pas été porté dès le départ par un élan, par une force sans précédent dans la seconde moitié du siècle qui s'achève maintenant. Certes, enfin, les gens de mon âge ont encore connu, c'est encore sur lequel j'insiste en dit long, les grandes croyances politiques et religieuses de l'après-guerre. Mais aucune de ces croyances n'a, à mon sens, suscité un élan collectif aussi puissant de la jeunesse, parce qu'il a coupé à travers les classes sociales, les histoires familiales de chacun et les niveaux d'éducation, évidemment. Alors, j'ai suggéré dans la seconde partie de mon titre que le rock n'avait eu cette force que parce qu'il avait suscité une mythologie nouvelle. Alors, je m'expliquerai bien entendu là-dessus, mais que le rock ait suscité des mythes, ce qui est indiscutable, est dans mon esprit plus une conséquence qu'une cause. Je voudrais montrer ici pourquoi et comment le rock est devenu une croyance et une pratique nouvelle. Et j'irais même jusqu'à dire une porte ouverte vers une forme de sacré. Et je voudrais aborder une question qui est peut-être inattendue pour la plupart de ceux qui sont là, c'est la question qui est pour moi extrêmement troublante de la présence de ce sacré-là, de ce drôle de sacré, dans nos vies d'apparence rationnelle et profane. Alors, commençons, comme me disaient mes professeurs, commençons par les évidences, n'oublions pas les évidences. Le mot de rock'n'roll, d'abord. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, c'est un mot qui n'appartient pas au lexique des Blancs. Hein. J'ai parlé des rives du Mississippi. Bon, le Mississippi baigne les États comme le Tennessee, l'Arkansas, la Louisiane. Eh bien, dans ces États, on trouvait deux communautés distinctes. Les colons, les fermiers blancs venus d'Europe, de tradition puritaine, souvent appartenant à la secte baptiste, et les noirs, esclaves employés dans les champs de coton. Bon. Ces deux populations se sont nécessairement mélangées. Je vais vous expliquer, enfin, vous savez certainement, mais j'insisterai sur la façon dont elles se sont mélangées. Et ce qui est important, c'est que le mot de rock'n'roll, qui signifie se balancer et rouler, a été en fait utilisé dès les années 20. Parce que ce terme, et c'est là que c'est très curieux, ce terme était utilisé dans ces régions comme une allusion pudique à la pratique du sexe. Et c'est typique de l'utilisation à double sens qui est pratiquée par les Noirs pour parler des sujets interdits par les Blancs depuis le temps de l'esclavage. Et en effet, on se rend compte que, dès le départ, le rock'n'roll, qui est une musique diffusée par les Blancs aux États-Unis, eh bien, ce terme même est un mot d'argot des Noirs. Bon, il faut quand même rappeler brièvement le contexte historique des États-Unis du Sud à cette époque. Un repère simple, très présent dans les esprits, début des années 20, à Tulsa, dans l'Oklahoma, tout un quartier a été brûlé par des milices municipales blanches parce que, dans l'ascenseur d'un grand magasin, un liftier noir est censé avoir violé une femme blanche. Or, on a appris quelques jours après l'événement qui a mis le feu aux poudres que rien de tel ne s'était passé. Et ça, cet événement a rendu les gens fous. Et il y a dans tous les États du sud des États-Unis, il faut savoir que la ségrégation est encore présente, même si la guerre de sécession a été gagnée par les nordistes, il faut savoir que toutes les semaines, tous les jours, un noir peut être lapidé, lynché, parce qu'il a eu l'audace de croiser le regard d'une femme blanche qui passait de l'autre côté de la rue. Bon. Voilà comment ça se passe quand même dans cette région. Et au début des années 60 encore, donner un exemple qui n'est pas des années 20, mais peut-être plus récent, le gouverneur de l'Alabama a fait rempart de son corps avec des employés municipaux pour empêcher l'accès du premier étudiant noir à l'université. Voilà. Il faut savoir donc, que l'acte de naissance du rock'n'roll, c'est la médiatisation brusque et soudaine d'Elvis Presley. Bon. Elvis Presley a enregistré son premier disque en 1954. Il était un garçon originaire de la région de Memphis, capitale du Tennessee. Mais, pour aller vite, c'est en 1956 qu'il passe pour la première fois à la télévision. Et la radio et la télévision sont absolument inséparables de l'impact que le rock'n'roll a pu avoir dans la société américaine dans son entier, et pas seulement localement. Bon. Et il faut savoir que Elvis Presley est le premier interprète, chanteur, a suscité un phénomène d'engouement hystérique. Avant, si vous voulez, il y a eu Frank Sinatra, mais Frank Sinatra suscitait le même genre d'engouement qu'une vedette de cinéma. Il y a un scandale dans le rock'n'roll et dans l'apparition d'Elvis Presley. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison très simple. C'est que Elvis Presley est le premier blanc, non pas à chanter les chansons des Noirs, parce que d'autres l'avaient fait avant, mais à avoir dans son corps la gestuelle des Noirs et à bouger comme un Noir. Et les conservateurs américains disent carrément, ça a été dit à l'époque, avec Elvis Presley, l'homme blanc est ravalé au niveau de l'homme noir, et c'est scandaleux, on ne peut pas laisser passer ça. Et il faut imaginer le choc que ça a représenté. Alors, maintenant, pour comprendre les sources musicales du rock'n'roll, je vais rapidement parler du blues. Bon. Le blues est né en Louisiane. C'est un folklore, évidemment, qui venait des communautés de Noirs qui avaient été donc importés comme esclaves. Et il s'est mêlé très vite à des folklores locaux venus des communautés de puritains écossais irlandais qui s'installaient donc dans ces États-là. Il faut savoir que le premier blues a été retranscrit par un blanc. C'est une histoire assez amusante, c'est que un compositeur de Broadway, qui s'appelait W.C. Handy, attendait un jour un train dans une petite gare du Sud, et il a vu un chanteur noir avec sa guitare sur le quai, et il a scrupuleusement noté les accords, la mélodie et les paroles. Et il a fait fortune à Broadway en faisant chanter par des chanteurs blancs des airs de blues. Et c'est une chose qui est tout à fait oubliée, c'est que la musique noire a été très présente aux États-Unis dans ce qu'on appelait les minstrel shows, les spectacles de ménestrel. C'était des blancs qui étaient grimés en noir, c'est-à-dire qu'on leur passait du cirage sur la figure, et ils chantaient les chansons des Noirs. Alors, d'ailleurs, le premier film musical et sonore de l'industrie cinématographique américaine, c'est Le chanteur de jazz de 1927 avec Al Jolson, qui est un blanc grimé en noir. Alors, donc, c'est tout à fait nouveau qu'un blanc se présente en tant que blanc, et non en Saint-Jean des Noirs, pour chanter exactement comme les Noirs. Alors, il y a quelqu'un dont il faut absolument parler à présent, parce qu'il est, à mon sens, celui d'où tout le rock'n'roll est issu, c'est le bluesman Robert Johnson. Robert Johnson, on le connaît parfois par une chanson des Rolling Stones qui est très connue, qui est « Love in Vain ». C'est le bluesman qui a introduit une façon de jouer de la guitare qu'on a appelée le « picking », qui a été à l'origine de la vocation d'Eric Clapton, par exemple. Parce qu'il était inspiré d'un musicien de jazz qui s'appelait Lonnie Johnson, qui avait inventé le solo de guitare. Bon. Eh bien, Robert Johnson, qui est mort extrêmement jeune, à 27 ans, en 1937, est quelqu'un qui présente dans son parcours, si vous voulez, toutes les caractéristiques de ce qui fait la spécificité du rock'n'roll. Il est né donc dans le sud du Delta, d'une union illégitime. Hein. Son père, officiel, est le fils d'un esclave affranchi qui a acquis une parcelle de terre dans une ville qui est située au sud de Jackson, dans le Mississippi, où, avec la construction du chemin de fer, il y a une forte population ouvrière qui s'est agrégée. À 17 ans, Robert Johnson se marie. Mais un an plus tard, sa jeune femme meurt en couche après avoir mis au monde un enfant mort-né.
Peu de temps après, il part vers le sud à la recherche de son père et il se fixe pour but sa ville natale. On est alors en pleine dépression. Ce sont les répercussions de la crise de 1929, ce qu'on a appelé le Dust Bowl aux États-Unis, c'est-à-dire le bol de poussière qui poussait tous les gens subitement au chômage, les blancs appauvris, sur ces routes poussiéreuses et asséchées, parce que ça correspondait à une période de grande sécheresse. Et donc, la misère et la disette poussent les familles sur les routes à la recherche d'un travail et d'un foyer. Il y a un chantier d'autoroute qui fait de Hazelhurst une oasis dans ce désert de misère. Bûcherons et ouvriers sont réunis dans d'immenses cités chantiers où on se divertit grâce à la musique. Et Johnson fréquente les buvettes où on joue du blues, et il devient le disciple du guitariste Ike Zinnemann, un maître local qui prétend avoir appris le répertoire du blues en jouant à minuit dans les cimetières, assis sur les tombes. Et il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire dans ça, c'est que on s'aperçoit que la source du rock'n'roll, développement du blues, c'est le rapport avec quelque chose de à la fois sacré et d'interdit. On apprend cette musique en s'éloignant de la communauté, en errant sur les routes, en essayant de chercher sa pitance partout où on le peut, en croisant des gens bizarres, et on apprend à jouer le blues, ce blues-là, comme si on vendait son âme au diable, en tout cas comme si on fréquentait un sorcier. Et il faut imaginer enfin, ce qu'a représenté Robert Johnson dans la naissance de cette musique. Parce que je vais vous passer un morceau. Et c'est le premier titre où on compare dans une chanson de rock une femme à une automobile, ce qui est un thème extrêmement récurrent ensuite dans les chansons de Chuck Berry, et ça revient sans cesse. Et là, il faut imaginer que ce morceau a été enregistré en 1937 par un homme qui allait mourir très peu de temps après, dans des circonstances tragiques, enfin que j'exposerai si j'ai le temps. Et je voudrais passer ce morceau qui s'appelle « Terraplane Blues », la terraplane étant la voiture. Voilà, il y a dans ce morceau un moment incroyable où tout d'un coup le tempo s'accentue et devient beaucoup plus scandé, et c'est vraiment le moment où le blues est en passe de devenir ce qu'on appelait le rhythm and blues, parce que j'ai pas le temps évidemment de m'étendre sur tous les aspects parce que c'est d'une arborescence à l'infini, mais en gros le rhythm and blues est apparu dans les grands centres comme Chicago. Hein, on remontait le Mississippi, on allait chercher du travail à Chicago. Et on jouait ça dans des endroits de plus en plus bruyants, de plus en plus enfumés, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et on a dû donc amplifier, trouver toutes sortes de techniques pour amplifier. Et l'accélération de ce tempo est venue aussi de l'influence du jazz qui s'est converti au bop. Hein. C'est la grande époque du bop. Et donc tout ça a concouru à finalement rendre le blues plus urbain et plus dynamique. Bon. Alors, il faut savoir l'expérience de Robert Johnson est déterminante. Pourquoi ? Parce que beaucoup de blancs, victimes de la dépression, qui se retrouvent sur les routes, qui se retrouvent finalement sans rien, comme l'homme noir, vont s'identifier au parcours de gens comme Robert Johnson. C'est-à-dire que le rock'n'roll, ça naît là où on est déraciné, là où on est déstabilisé, là où on n'a plus ses repères habituels, là où on ne sait plus qui est son père, qui est son frère, où on ne sait plus où sont ses racines, et où on chante une forme de malheur. Et un des pionniers du rock'n'roll blanc est un chanteur de country qui s'appelle Jimmy Rogers et qui a eu, lui aussi, qui a appris, dont le père était employé sur une ligne de chemin de fer qui allait d'est en ouest. Et il a entendu les chants de blues des Noirs qui construisaient la voie ferrée. Il est mort également très jeune dans des circonstances tragiques. Hank Williams, qui lui est né en 1923 et mort en 1953, encore quelqu'un qui est mort victime de ses excès, de l'alcool, d'une vie dissolue, etc., lui aussi a appris son répertoire auprès d'un chanteur des rues, un chanteur noir, parce que ses parents l'envoyaient pour gagner de l'argent à 12 ans, cirer les chaussures dans les rues. Donc, en fait, c'est la mise en parallèle, finalement, jusque-là, rarissime, voire jamais arrivée, des conditions de vie des Blancs et des conditions de vie des Noirs, qui a créé un terrain commun, qui va, comme on le voit, bien au-delà du mélange de deux folklores. Ce sont des conditions de vie qui, tout à coup, deviennent égales. Et on ne comprend rien au rock si on n'a pas ça présent à l'esprit. Alors, imaginez la difficulté que ça représente dans un contexte de ségrégation. Mais il faut savoir qu'il y a des points de rencontre tout à fait légitimes entre les deux communautés, c'est l'Église. Parce que dans l'Église, on se réunit, on communie, et le style outrancier d'un Presley qui se remue, qui se déhanche, qui se met en transe, qui se met à parler de manière syncopée en octant, mais c'est le style des prêcheurs baptistes. C'est le style des prêcheurs baptistes noirs qui ont entendu la leçon et l'évangile des Blancs et qui le mêlent aux scansions venues des chants africains, et qui sont les scansions aussi du blues avec la façon de glisser sur les voyelles, etc. Donc, vous prenez un James Brown, par exemple, qui est apparu au début des années 60, donc un chanteur noir le plus universellement connu. Beaucoup de gens ont à l'esprit sa prestation dans le film Les Blues Brothers, où il est comme ça en cape, et il se met à entrer en transe et à se rouler par terre, etc. Mais c'est quelque chose qui était propre aux prêcheurs, qui mimait une forme de possession. Ils étaient possédés par l'esprit divin. Et la particularité du rock'n'roll, ce qui le rend extrêmement troublant, c'est que cette possession est une possession qui, tout à coup, devient profane. C'est que James Brown entre dans une transe qui n'a pour but et pour fonction qu'elle-même. Ce n'est pas une transe qui est au service de la parole divine. Et on se rend compte du déchirement et du drame qu'a créé à l'intérieur, justement, de ces chanteurs noirs, qui venaient tous de familles très religieuses, pétries de religiosité, qui étaient animées par à la fois la parole de Dieu et en même temps par une parole qui les dépassait totalement et qui les poussait hors d'eux-mêmes et qui, à mon sens, est liée à une spiritualité païenne beaucoup plus insaisissable que j'ai essayé de décrire un peu en parlant de Robert Johnson. Je vais vous donner... On parle des débuts du rock'n'roll, on parle beaucoup d'Elvis Presley parce que ça a été la figure la plus répandue à ce moment-là. Mais il y a deux pionniers essentiels du rock'n'roll, c'est un noir et un blanc. Ils ont les mêmes histoires. Vous prenez Little Richard, qui est né en Géorgie, à Macon. Alors, Little Richard, lui... c'est le troisième enfant d'une famille de 12. Il vient d'une famille de la petite bourgeoisie noire du Sud. Et sa famille suit le culte baptiste des adventistes du septième jour. Alors, mais c'est là qu'on voit la dualité. Il a un de ses oncles, ou même son père, qui vend du whisky en contrebande. Bon. Alors, tout de suite... quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Bon. Alors, en plus, il découvre son homosexualité à 13 ans et il se présente dès l'âge de 16-17 ans sur scène avec une coiffure permanentée gonflée à 15 cm de haut, une moustache comme un trait de pinceau et des chemises bigarrées et une manière de s'enivrer du flot de ses propres paroles, qui est le propre des prêcheurs. Ses deux oncles étaient prêcheurs. Bon. Et alors, Little Richard, bon, bah, tout le monde connaît Tutti Frutti, Long Tall Sally, c'est des classiques du rock'n'roll, mais peu de gens savent que Little Richard, qui a été un des trois artistes noirs à avoir des tubes nationaux aux États-Unis, avec Bo Diddley, et dans une beaucoup plus grande mesure, Chuck Berry. Je mets à part Ray Charles, qui vraiment, lui, vient purement du gospel qui a introduit le genre de la soul. Mais c'est vraiment quelqu'un qui était un excentrique. Et il est parti pour une tournée triomphale en Australie avec d'autres pionniers du rock'n'roll, qui étaient Eddie Cochran et Gene Vincent. Et tout à coup, il a une vision dans son sommeil. Il l'a raconté, hein. Il est nu, damné, plongé par Dieu dans les flammes de l'enfer. Il y a aussi une autre version qui dit qu'il aurait vu brûler un réacteur dans l'avion qui le transportait la nuit où les Russes ont lancé le premier Spoutnik dans l'espace. Et il a vu une boule de feu dans le ciel. Et à ce moment-là, il a entendu une voix. Et cette voix, c'est Dieu qui lui parle, qui l'adjure de quitter le rock'n'roll et sa vie de pêcheur. Alors à ce moment-là, il s'exécute. Il retourne aux États-Unis 10 jours à l'avance et il jette toutes ses bagues à l'eau d'une valeur de $20,000 et il s'inscrit au début de l'année 1958 comme étudiant en théologie à l'Oakwood College de Huntsville dans l'Alabama d'où il va sortir avec un diplôme de prêcheur baptiste. Autre histoire, celle de Jerry Lee Lewis qui est lui blanc, qui vient de Louisiane, même histoire, famille de prêcheurs. C'est quelqu'un qui va... au collège théologique et qui, tout à coup, se met à chanter un cantique à la façon des prêcheurs noirs, c'est-à-dire en se mettant à hurler, à se lever, à le scander de cette façon. Il est renvoyé aussitôt et son père le transforme en phénomène de foire. Et Jerry Lee Lewis invente une manière de bouger qui est comparable à celle d'Elvis Presley, sauf que lui, il a un handicap, c'est qu'il est assis devant un piano, donc il ne peut pas se déhancher. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il joue en mettant son pied comme ça, il se couche sur le piano et il entre en transe, avec ensuite une espèce de gueule de bois, c'est-à-dire je me suis laissé posséder par les esprits malins, je suis dans l'erreur, je suis dans le péché, et je dois m'amender. Donc, c'est quand même quelque chose sur lequel on n'insiste jamais, c'est que le rock'n'roll, au fond, est une musique de déséquilibré. Voilà. Et c'est ça qui en fait, je dirais, la force. Et la chose quand même qu'on se demande à ce stade de la démonstration, si j'ose dire, c'est comment se fait-il qu'une musique de gens déchirés, déséquilibrés, ait pu à ce point conquérir le monde ? Parce que finalement, l'expérience de ces gens-là est très marginale, est très extrême. Donc, on comprend mal comment elle a pu, comme ça, galvaniser toute une population. Et c'est là qu'il faut, je crois, quitter les États-Unis et parler de ce qui s'est passé en Europe et singulièrement en Angleterre. Je passerai par la France aussi, mais d'une certaine façon, ce qui s'est passé en France est moins significatif de l'universalité du rock'n'roll. Ça concerne plus, je dirais, notre histoire à nous. Reparlons un peu d'histoire. Au début des années 60, les États-Unis sont un pays qui est dans un état de crise très aiguë. Pourquoi ? C'est la guerre froide. Il y a un immense mouvement qui sera représenté par Bob Dylan et John Baez à ses débuts pour ce qu'on a appelé le combat des droits civiques, c'est-à-dire l'obtention par les Noirs des mêmes droits que les Blancs. Beaucoup de jeunes Américains qui sont de plus en plus nombreux parce qu'il y a évidemment eu le baby boom qui fait que la classe des jeunes est en train de devenir démographiquement beaucoup plus importante qu'elle ne l'a jamais été. Et donc ces jeunes s'en prennent à leurs parents qui leur enseignent des valeurs encore proches de l'avant-guerre, c'est-à-dire le devoir, tu feras la même chose que moi, tu écouteras ce que je dis, tu n'en feras pas qu'à ta tête, etc. Donc il y a une incompréhension entre les générations et puis il y a l'assassinat de Kennedy fin 1963. Kennedy a été élu en 1960 dans un contexte, c'était très ric-rac déjà à l'époque, et en plus dans un contexte où chaque Américain pense que la guerre peut éclater dans son pays, c'est-à-dire qu'ils sont habitués à faire des exercices de survie dans des abris anti-atomiques tous les jours. C'est des trucs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des documentaires incroyables qui montrent les alertes anti-nucléaires dans les familles américaines où on voit toute la famille à la queue leu-leu qui se précipite dans un abri. Enfin bon, c'est hallucinant. Et dans ce contexte-là, les Américains ne sont pas du tout fiers de leur pays. Surtout les jeunes Américains sont divisés parce qu'une bonne partie d'entre eux contestent ce qu'est devenu ce pays. Et en plus, parenthèse, le rock'n'roll a été un feu de paille. Il a été très vite récupéré par les studios, par l'industrie, qui en présente une version beaucoup plus sage et beaucoup plus propre et plus peignée, avec ce qu'on a appelé les teen idols, les idoles adolescentes, qui présentaient finalement le rock'n'roll, les chansons de rock'n'roll, un peu dans la tradition du spectacle et du musical américain, c'est-à-dire des blancs maquillés en noir qui font semblant de chanter les chansons des Noirs. Et ça a été les Frankie Avalon, Ricky Nelson et compagnie. Bon, alors, ça, c'est le tableau aux États-Unis. Mais, dans le nord de l'Angleterre, à Liverpool, il y a de jeunes garçons issus de familles prolétaires, modestes, qui n'étaient pas non plus misérables, mais enfin, bon, je veux dire que c'était vraiment des prolétaires, qu'est-ce qui se passe ? Bon. eux, voient les films avec Elvis Presley, parce qu'il faut savoir qu'Elvis Presley n'a jamais fait de tournée hors des États-Unis. Il a toujours été présent dans le reste du monde par des films, par des comédies musicales qui, au début, n'étaient pas du style Las Vegas, qui, au début, étaient le rock du bagne, où il y avait, c'était des histoires assez classiques, où il jouait le rôle d'un rebelle un peu à la Marlon Brando. Bon, eux, ils sont dans l'Europe d'après-guerre, qui est vraiment un endroit où, pour un jeune, c'est extrêmement sinistre. C'est-à-dire que des villes ont été bombardées, c'est les tickets de rationnement, pas de travail, une vie extrêmement dure, extrêmement âpre, où on n'a pas la possibilité de s'affirmer soi-même. Et ces garçons voient le spectacle de l'Amérique via quelque chose de très romancé. C'est-à-dire les films hollywoodiens, les décapotables, les gros cylindrés, les belles blondes. Ils se disent, j'ai envie d'être là. C'est cette vie-là qui me fait envie. Et en France aussi, on a eu le même phénomène. C'était la naissance de Johnny Hallyday, des Chats Sauvages, des Chaussettes Noires. En France aussi, on a envie de mener cette vie-là, même si politiquement on peut être anti-américain, parce que c'est deux choses qui ont pu tout à fait cohabiter. Eh bien, pourquoi les Beatles ont à ce point subjugué les Américains en arrivant en février 1964, au cours de la première tournée où ils ont déclenché une espèce d'hystérie? Mais tout simplement parce que les Beatles croyaient à des États-Unis de rêve, à des États-Unis de fantasme, qui n'étaient pas les États-Unis réels. Et les Américains eux-mêmes ont été finalement éblouis et captivés de voir que, à l'étranger, on avait une image de leur pays qui était beaucoup plus flatteuse que ce que leur vie quotidienne leur montrait comme spectacle. Et ça explique la diffusion mondiale des Beatles. Ils n'ont évidemment pas été les seuls. Il y a eu ensuite ce qu'on a appelé l'invasion britannique, avec les Rolling Stones, les Who, les Kings. Et là, il faut comprendre que l'arrivée des Beatles a créé le langage du rock tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pourquoi ? Avant, les musiciens étaient soumis à des directeurs de studio, c'est-à-dire des directeurs artistiques, des producteurs, des gens qui leur expliquaient « tu vas chanter cette chanson-là, tu vas la chanter dans ce rythme-là, et tu vas t'habiller comme ça, et on va t'appeler de telle manière. » D'ailleurs, en France, les chaussettes noires devaient s'appeler à l'origine les 5 rocks, et ils ont appris par un coup de téléphone, je crois, de leur impresario, qui avait passé un contrat avec les chaussettes STEM, qu'ils devaient s'appeler les chaussettes noires. Bon. Donc, c'était le monde du cirque. Hein. C'était des numéros de cirque, finalement, où on n'avait pas ce mot à dire, où on était pieds et poings liés entre les mains d'un impresario. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les Beatles ont poussé la jeunesse du monde entier à, finalement, être plus sûre d'elle-même et à dicter sa façon d'enregistrer et de faire de la musique. C'est-à-dire que les Beatles ont été les premiers à composer eux-mêmes leurs propres chansons. Peu à peu, ils les ont orchestrées eux-mêmes. Ils avaient au départ un producteur qui les a accompagnés jusqu'à la fin, mais dont le rôle a un peu changé, qui était George Martin. C'était un maître de chant, un maître de chorale, qui au début avait pour tâche de les faire jouer en rythme, de leur apprendre à chanter à l'unisson, etc. Mais petit à petit, George Martin a été une espèce d'instrument qui, grâce à sa culture musicale, a été capable de traduire en orchestration précise, en recherche précise de sonorité, les idées intuitives de John Lennon et Paul McCartney, et des deux autres aussi qui en avaient. Donc, tout à coup, le rock est devenu le domaine des enfants rois. Est-ce qu'il ne faut pas oublier que les Beatles, dans leur période de créativité intense, entre 64 et 67, je dirais après, c'est bien sûr un groupe extraordinaire, mais il y a moins ce phénomène de fusion entre les quatre. C'est plus quatre individualités qui cohabitent. Les Beatles ont, pour ainsi dire, créé finalement le canon du groupe de rock tel qu'on est habitué à l'entendre familièrement aujourd'hui. Et c'est eux qui ont poussé quantité de jeunes gens dans le monde entier à s'approprier leur histoire, à faire quelque chose de leur vie. Et vous avez une profusion extraordinaire de groupes dans les années 60, dans les coins les plus reculés des États-Unis. C'est ce qu'on a appelé le rock garage. C'était la plupart du temps des garçons de 16 ans, 17 ans, qui ne savaient pas chanter, qui ne savaient pas vraiment bien jouer, qui ne savaient pas du tout comment on enregistrait un disque de manière classique, mais qui y sont allés quand même. Ils ont eu des tubes locaux, ils n'ont jamais été diffusés dans le pays entier, mais il y a eu, si vous voulez, une espèce d'éclosion incroyable et qu'on n'a pas pu arrêter. Alors, il faut voir que tout ça, tout ce dont on parle maintenant, c'est grâce aux Beatles que qu'on le connaît tout simplement. Et il y a une chose très intéressante grâce aux Beatles aussi, c'est que grâce à eux, les Américains ont accepté ce que les Noirs leur avaient apporté. Il y a un disque de Bob Dylan qui porte un titre très... qui dit tout là-dessus, c'est « Bringing it all back home ». On rapporte tout ça à la maison. Tout ça, c'est quoi ? Ben, c'est leurs racines, le rhythm and blues, le blues, tous les folklores, tout ce qui a été choisi, aimé, choyé par les groupes anglais, qui, eux, connaissaient ça par l'importation. Et finalement, les Américains se sont dit, mais finalement, pourquoi garder toute cette musique-là dans la marginalité ? Pourquoi, ne pas embrasser tout notre héritage et en faire quelque chose ? Et si cette musique a pu avoir la force qu'elle a eue, c'est qu'elle s'est inscrite dans un mouvement de délivrance et de libération de toute une génération qui était à ce moment-là en pleine explosion et qui s'est opposée à la guerre du Vietnam. Enfin, c'est une histoire très connue. Et ça a été, si vous voulez, l'amorce de tout le mouvement hippie et de tout le mouvement qui a créé l'explosion de différentes formes de musique telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, qui ont été à partir de 1967-68, le blues, le hard rock, la musique progressive, le country rock, le jazz rock, enfin tout ça. Voilà. Alors, dans toute cette histoire, il y a quelque chose qui n'a jamais été abandonné, c'est l'aspect maudit du rock. C'est que dans le rock, il y a eu toujours cet aspect de malédiction. Il y a toute une martyrologie dans le rock, c'est-à-dire que vous avez le panthéon de ceux qui sont encore morts trop tôt d'avoir approché une vérité de trop près. Vous avez Jimi Hendrix, mort à 27 ans en 70, vous avez Jim Morrison, mort en 71, Janis Joplin, morte en 70, tous avant 30 ans. Et il y avait dans le rock une espèce de, si vous voulez, de préscience de ce qui se passait dans la société, de ce qui se passait en politique, de ce qui se passait dans la civilisation. Et il y avait l'idée que l'espoir extraordinaire de la période hippie, où on ne prenait pas de la drogue pour se détruire, mais on prenait du LSD pour ouvrir les portes de sa perception, c'est-à-dire c'est ce que Jim Morrison des Doors disait de son groupe, c'est que nous sommes des chamans, nous sommes des vecteurs qui permettent à notre public d'entrer en communication avec ce qu'il ne peut pas percevoir avec les outils de tous les jours. Et d'ailleurs, les Doors reprenaient ce vers de William Blake, qui a été cité par Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, c'est « si l'homme pouvait ouvrir les portes de la perception, il aurait accès à un monde dont il n'a pas idée ». Eh bien, tout cet espoir démesuré, fou, arrivait à une catastrophe. Et d'une certaine façon, peu importe l'histoire individuelle des morts du rock'n'roll, parce que chacun est mort pour des raisons tout à fait différentes, on peut même dire que c'était des accidents, des hasards, et qu'un type comme Morrison, de toute façon, a tout fait pour se détruire, parce qu'il ne voulait pas vivre longtemps inconsciemment, c'était quelqu'un dont ceux qui le connaissaient disaient « on savait que ça finirait mal ». Mais c'est l'interprétation qui a été faite de la communauté qui se reconnaissait dans le rock, de ces morts-là qui est importante. C'est que, tout à coup, on interprète ça comme des signes, c'est que cette époque est en train de nous conduire au désastre. Quelque chose est en train de s'achever et l'utopie n'a plus lieu d'être. Alors, c'est là que, si vous voulez, on entre vraiment dans la dimension mythologique du rock. C'est que le rock, c'est, comme on l'a souvent dit, un culte, un objet de culte. Souvent dans le rock, vous avez l'affrontement entre des familles antagonistes. Vous avez eu, par exemple, au milieu des années 60, en Angleterre, ils se battaient sur les plages de Brighton, ça a fait les grands titres des journaux, ceux qu'on a appelés les Mods, contre les rockers. Les rockers étaient des amateurs de rock'n'roll, plutôt matinée de musique noire. C'était les Rolling Stones, si vous voulez, et les Mods étaient, eux, des puristes, c'est-à-dire qu'ils s'habillaient avec des costumes cravates, ils n'admettaient le rock et le rhythm and blues que chantés par des Noirs en version originale, ils détestaient les groupes bâtards, ils faisaient une exception pour les Who, parce que c'était leurs copains, mais, si vous voulez, c'était, il y avait des sectes. Et ça a continué avec l'affrontement entre les punks et les Teddy Boys à la fin des années 70 à Londres, entre aujourd'hui, ça peut se voir aussi dans l'affrontement entre le rap et la techno. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, je dirais, para-religieux dans le rock. C'est-à-dire que le rock, c'est une croyance, c'est une appartenance, c'est une identité grégaire collective. Et ça n'est pas simplement une musique, on le voit bien, parce qu'il y a dans le rock le rapport avec quelque chose qui vous fait sortir de la vie quotidienne, et ce n'est pas une musique qu'on écoute chez soi, qu'on écoute comme on écouterait de la musique classique, voire du jazz. Parce que le jazz, de toute façon, même si son histoire peut s'apparenter à celle que je viens d'évoquer grossièrement pour le rock, est une musique qui, dans les années 60, est institutionnelle, est académique, il y a des écoles de jazz, etc. Donc, on est dans le rock toujours dans une forme de porte-à-faux, de déséquilibre entre soi et le reste du monde. Et entre soi et soi, d'une certaine façon. Parce qu'il y a soi qui perçoit, je dirais, des ondes, qui perçoit des choses qui ne peuvent pas s'exprimer, que j'essaie d'exprimer parce que le langage est tout ce que j'ai à m'apporter. Mais je veux dire que le propre du rock, ce n'est pas qu'on en parle. On en parle, je dirais, comme on parle d'une expérience mystique après qu'elle a eu lieu. Mais ce n'est pas fait pour en parler. C'est fait pour être vécu et c'est fait pour être transmis. On peut, à la rigueur, emporter un témoignage. Mais ce n'est pas une science. Ce n'est pas du tout une science. Alors, je voudrais... dire un dernier mot, je suis désolé de ne pas avoir pu aborder tout ce que je voulais aborder, mais 50 minutes, c'est dérisoire, vu tout ce qu'il y a dans ces 2000 pages et tout ce que j'aime et tout ce que je voudrais raconter. Mais je voudrais rappeler une impression personnelle. C'est qu'en 1988, je crois, en découvrant le Virgin Megastore, justement, à Paris, je lui ai trouvé un aspect très mussolinien, hein, assez semblable pour ceux qui la connaissent à la gare de Milan. Et ce grand escalier de marbre, vous voyez, qui conduit généralement à une construction provisoire en carton. Hein, je me rappelle que, en général, c'était une sorte de monument provisoire, hein, à un produit en promotion. En ce moment, il y avait, je me souviens, il y a 5 ans, une fausse cabine téléphonique en carton-pâte londonienne qui avait été construite pour le lancement de l'Anthology des Beatles. Et bien, justement, ce que je distingue entre ce que le rock a été quand il a été inventé et ce qu'il est aujourd'hui pour nous, consommateurs, c'est justement ça. C'est qu'au début, ce qui était sacré dans le rock, c'était son souffle et son esprit. Et aujourd'hui, ce qui est sacré, c'est la marchandise. Et la marchandise elle-même est présentée dans une mise en scène sacrée, sacralisante. Et si vous voulez, l'attente mystique d'une révélation, celle qui précédait l'arrivée d'un disque ou d'un concert, cette espèce de transe et cette hystérie, parfois, qui pouvait même s'exprimer intérieurement, elles sont aujourd'hui le quotidien de tous les enfants, petits et grands, qui attendent la nouvelle console de jeu PlayStation 2 ou les nouvelles aventures d'Harry Potter. C'est-à-dire qu'il y a une perception sacré aujourd'hui des produits. Et j'emploie le terme produit au sens où les employés de marketing l'emploient. Il y a cette espèce de fétichisme des marques aujourd'hui qui a pénétré nos vies. Et à mon sens, c'est l'enfant bâtard et dévoyé du rock et d'un rapport nouveau, magique et rituel que le rock a établi vis-à-vis des événements quotidiens de notre vie d'acheteur et de consommateur. Et à ce sujet, le terme d'animisme, au sens, je crois, où les historiens des religions l'utilisent, à propos des cultes africains, asiatiques ou polynésiens, me paraît tout à fait approprié. L'homme crée des objets, des œuvres, des technologies qui deviennent prétexte à des cultes. Et le fait qu'on recourt aujourd'hui à ce curieux anglicisme de chanteur culte, disque culte, qui est passé dans le langage courant, me paraît très significatif. Alors je dirais au fond que le rock a été une tentative couronnée de succès, finalement, d'enchantement, de réenchantement du monde, au sens où on jette un sort ou un charme sur les choses. Il a jeté, comme un voile bizarre, multicolore, sur la vie du jeune homme que j'ai été. Et je n'arrive pas à être sûr, si vous voulez, d'en vouloir au rock ou de lui être, au contraire, reconnaissant. Grâce aux Beatles et grâce au rock, d'ailleurs, en général, beaucoup de gens ont cru en la supériorité d'un monde rêvé sur le monde réel. On a cru dans des choses absolument hallucinantes que, par exemple, décortiquer les chansons, les propos, les photos même des Beatles ou de Bob Dylan, ça pouvait vous mener à un savoir supérieur, ineffable. Et à mon sens, finalement, les Beatles ont rendu pour beaucoup, je parle des Beatles, je pourrais parler de n'importe quel groupe de rock auquel chacun de nous s'est attaché d'une manière justement fétichiste. Ils ont rendu pour beaucoup la vie plus décevante encore, en leur faisant croire que le rêve était plus fort que la vie. Et à l'arrivée, je crois que le rock a planté dans l'humanité le germe d'espoir démesuré. Et je me demande parfois aussi si le meilleur témoignage sur les désastres entraînés par cette foi puérile et sans limite, et en même temps inévitable, parce qu'on ne peut pas vivre sans, qui a fait vivre une partie de l'humanité dans l'irréalisme et l'émerveillement, n'est pas à chercher chez nous dans un témoignage comme Les particules élémentaires de Michel Houellebecq. Mais en même temps, est-ce qu'il n'est pas meilleur de vivre environné de monstres dans un monde où, comme l'a écrit Victor Hugo dans un poème qui m'avait frappé quand j'avais 17 ans, tout vit, tout est plein d'âme, au pluriel, plutôt que de garder ces monstres enfermés dans une prison de notre âme, d'où, un jour ou l'autre, ils finiront toujours par s'échapper pour nous dévorer. Voilà. Merci.
Sur ce que vous avez dit, c'est vrai que au niveau du rock'n'roll, on pourrait passer des journées entières et tout. Moi, je baigne dans le rock'n'roll depuis, disons, l'âge de 10 ans. Le premier concert rock que j'ai vu, et comme vous l'avez bien signifié tout à l'heure, moi j'ai vu dans un cirque, c'était le cirque Pinder, avec Danny Boy et les Pénitents.
Oui, il avait des cagoules.
C'est là que j'ai eu comment le flash, justement, du rock'n'roll. Bon, l'impression que j'ai dans tout ce que vous avez dit, là, c'est que vous avez... On dirait que le rock'n'roll est mort. Et moi, je continue à aller à des concerts... je me régale encore à écouter plein de CD. Bon, on est à Rennes ici, c'est la ville des transmusicales. Hein. Bon, cette année, il y a eu 26 000 personnes. Bon, il y a eu le festival des vieilles charrues. Bon, le rock'n'roll n'est pas mort, il continue. Il y a plein de créations. Ouais. Et à l'heure actuelle, je pense que de toute façon, même si le rock a un côté diabolique, bon, il signifie encore la vie.
Mais évidemment, non. Mais là, c'est une vision du rock. C'est pas la seule vision possible. J'ai essayé de présenter de manière équilibrée une perception personnelle et une perception historique. Maintenant, je pense que le rock est devenu une pratique, je dirais, beaucoup plus
banal. Et heureusement, enfin, il y a aussi la fête dans le rock, il ne faut pas l'oublier. Enfin, je veux dire, il y a des choses, mais ça me paraît, je dirais, tellement évident qu'on n'a pas besoin de moi pour le rappeler. Je pense que c'est peut-être plus intéressant de s'apesantir sur les sources profondes de cette musique et voir comment ça se fait qu'un type qui se met effectivement à entrer en possession, en convulsion, nous touche, nous, alors qu'on vient d'un autre monde. C'est ça que j'ai voulu montrer. C'est ça que je trouve mystérieux, parce que bon, c'est ma forme d'esprit, mais je ne suis pas du tout en train de dire qu'on n'a plus le droit de faire du rock, que c'est fini. Au contraire, enfin, moi, j'écoute 10 disques de rock nouveaux tous les mois, et la preuve que le rock a réussi, c'est qu'il s'est étendu à toutes les autres formes de musique qu'il a fait essaimer à nouveau. Enfin, sans le rock, le jazz serait mort.
Il y a encore tout un côté magique. Cette année, au Transmusical, il y a eu un groupe, là je vais faire de la publicité, qui s'appelle Yatka, qui vient de Mongolie. C'est un groupe qui a piqué, disons, un côté très, très traditionnel, mais bon, qui a ajouté le côté rock'n'roll. Et c'est un groupe qui a fait un tabac et qui va faire un tabac dans très, très peu de temps. Bon, il y a eu Gold de Frappe cette année encore. Ça a été c'est une perle, c'est vrai.
D'accord.
Une autre question, là.
Je pense qu'avec le rock'n'roll, on va encore se régaler pendant un certain nombre d'années.
Ah ben, j'en suis sûr.
Madame.
Je regrette peut-être juste une chose, c'est qu'on n'ait pas défini ce que c'est, de quoi vous parliez quand vous parliez du rock. Est-ce que vous incluez toutes les musiques électroniques ?
Je ne vous vois pas.
Je suis
là. Ah, vous êtes là.
Si vous pouvez vous lever.
Est-ce que vous incluez les musiques électroniques, le rap ? Est-ce que c'est un terme générique musique actuelle ? Ou est-ce qu'on, de quoi on a parlé, en fait, exactement ?
Bah, on a parlé, si vous voulez, je me suis beaucoup appesanti sur les débuts du rock'n'roll, hein, en essayant de préciser exactement dans quel contexte historique et musical ils étaient nés. Ce dont je parle, c'est essentiellement, ce dont j'ai parlé dans le détail, c'est essentiellement entre le milieu des années 50 et la fin des années 60. J'aurais voulu parler longuement de ce qui s'est passé dans les années 70 et 80, mais si vous voulez, il me semble, dans une époque qui vit toujours à la surface des choses et dans l'éphémère, intéressant, pour une fois, de parler des sources, de comment le domaine s'est constitué, de quoi on parle réellement quand on parle de l'histoire du rock, de comment son langage s'est constitué. Après, le rock a eu une très longue histoire. Il a évolué dans des tas de genres différents. Et en effet, bon, il n'est plus la musique universelle qu'il a été, à mon sens. C'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui à une segmentation entre plein de genres différents. Bon, c'est-à-dire que vous prenez... le public aujourd'hui, alors évidemment, quand vous avez 15-16 ans, vous vous accrochez pendant 2 mois à Michael Jackson, après vous avez un copain qui vous fait écouter du thrash metal, après vous découvrez Bob Marley, etc. Donc vous papillonnez d'un genre à l'autre, un peu comme on tourne le bouton d'une radio. Mais au fond, ce qui pour moi n'existe plus dans le rock aujourd'hui, c'est cette façon de tout attendre de lui. C'est-à-dire que la musique aujourd'hui, c'est un loisir et une consommation avant tout. Je ne pense pas qu'on cherche le sens de la vie dans le rock aujourd'hui. Ça, je n'y crois pas. Je pense que c'est une forme d'expression artistique comme une autre, passionnante. Encore, il y a plein de renouvellements. Et les musiques électroniques, de toute façon, dans rock et folk, dans les années 70, on parlait de musique planante, hein, la musique planante allemande, Tangerine Dream. On parlait de Kraftwerk, qui est l'inventeur de la techno au milieu des années 70. Donc les musiques électroniques faisaient partie de cette communauté qu'était le rock. Aujourd'hui, on assiste à un éclatement et en effet, les médias mettent continuellement en avant les musiques électroniques comme si elles étaient apparues il y a 5 ans ou il y a 6 ans. Mais alors que c'est une histoire, mais qui est vieille de 50 ans, les musiques électroniques. Je veux dire que c'est... on pourrait faire un exposé aussi là-dessus. Je ne pense pas que je serais le plus compétent pour le faire, mais il me paraît tout à fait fallacieux de dire que le rock... mène et dépassé en tant que langage musical par la musique électronique qui est un langage absolument nouveau. Je pense que c'est un langage autre. Il se trouve que, bon, comme on a été vraiment bercé de rock pendant les années 80 et que le rock, en plus, est lié à une commercialisation et une médiatisation à outrance, il est tout à fait normal que les très jeunes générations aient cherché à aller voir ailleurs, ce qui est le propre de toutes les nouvelles générations. Donc, mais je n'exclus pas du tout, par principe, les musiques électroniques du rock, puisque des tas de groupes de fusion, comme The Prodigy, etc., montrent bien que ces deux courants se croisent. Un des grands succès de la musique électronique aujourd'hui, c'est Fatboy Slim. Fatboy Slim est un DJ de Brighton il faisait partie d'un groupe de rock indépendant dans les années 80 en Angleterre. Donc, en faisant ça, je me suis aperçu du fait d'une chose simple, c'est qu'il y a des passerelles entre toutes les musiques. Et que c'est une vision complètement, je dirais, journalistique et erronée de croire qu'un jour, un type à 18 ans dit « je vais faire du thrash metal et je vais me tenir à ça et je n'écoute rien d'autre, il n'y a que ça qui m'intéresse, je vais m'habiller en thrash metal ». C'est faux. Les types font de la musique un peu par hasard parce qu'ils ont un copain qui fait ça, après ils changent d'avis, ils vont faire ça. Les musiciens sont libres. Et je dirais ça, ce sont les catégories qui permettent de diffuser la musique commercialement d'une manière plus facile. Et en plus, ça aide aussi à un sentiment grégaire d'identité qui est important. Bon, enfin, je ne sais pas si je réponds un peu dans le flou, hein, mais...
Oui, bonjour. Je voulais aussi vous poser la question, vous parlez de musique électronique, mais on pourrait presque dire maintenant parler de musique informatique. Parce que vous disiez tout à l'heure que la musique était issue de tensions que l'individu, comme tout être humain, avait. Et finalement, la musique informatique n'est plus issue de tensions, mais d'un programme informatique préétabli qui donnera, en termes de sensibilité humaine, des choses identiques. Et peut-être avec ou sans intérêt, ça je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus quel est l'avenir pour la création.
Mais écoutez, il me semble que dans le rapport entre l'homme et la machine, il ne peut y avoir que tension résolue. Un programme informatique est mis au point par un individu ou un groupe d'individus. Et d'ailleurs, dans la fascination pour le machinisme, pour la répétition, on trouve une constante de la création musicale contemporaine. Enfin, John Cage a quand même été, puis Terry Riley ont été des pionniers de la musique répétitive. Et de la contemplation de la répétition du même naît une forme de fascination et de poésie. Un groupe comme Kraftwerk a fait un de ses disques essentiels qui était Autobahn, l'autoroute, où se répétait comme une espèce de transe et d'hypnose le même mot, ban, 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 auto, auto, ban, avec un rythme et un motif répété à l'infini, qui aurait pu se répéter pendant trois quarts d'heure. Donc, mais ça crée une forme d'hypnose et de transe, la répétition. Et d'ailleurs, le succès des musiques électroniques, des rêves, de tout le courant des rêves, la house, la trance, etc., ça vient... C'est une espèce de drogue en vente libre, dans le bon sens du terme, selon moi. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est hypnotique, qui est accoutumant et qui vous plonge dans un état second, dans un état qui vous met en contact avec une autre perception, une perception qui vous fait échapper à votre rôle d'homme ou de femme ayant un métier, une famille... etc. Enfin, vivant dans telle ville, on oublie ça.
Bonsoir. Oui, j'ai appris par un groupe français, mais de Paris, qu'en fait, le boogie-woogie existe depuis les années 20. Oui. Alors, c'est vu un petit peu aussi comme l'ancêtre du rock'n'roll, je voulais savoir s'il n'y avait pas aussi, en fait... plusieurs ancêtres communs pour rock'n'roll.
Ah oui, alors j'ai pas eu le temps de vraiment entrer dans le détail des sources musicales, merci. Parce que c'est vrai, je suis pas musicologue, si vous voulez. Moi, je suis plutôt finalement témoin et raconteur, voilà. Si vous voulez, le boogie-woogie est né, d'après ce que je sais, dans les bouges, dans les maisons closes. C'était le pianiste accompagnait. C'était là que ça se passait, quoi. Et donc il y avait ça prouve encore que le rock est né dans des endroits un peu illicites. Et après il y a d'autres sources, bien sûr. Il y a la source, vous savez, il y a aussi le folklore allemand dans le rock. Il y a l'accordéon qui a été apporté en Louisiane et au Texas à la fin du 19e siècle. Hein, vous avez un genre de rock qui est le Tex-Mex, Texas-Mexico, où vous avez des rythmes de polka. Après, vous avez les chants traditionnels irlandais, écossais. Vous avez la country, elle vient de là. Vous avez eu le genre du doo-wop, hein, qui était le plus populaire à la fin des années 40, début des années 50 aux États-Unis, c'est-à-dire c'était des chants gospel avec les scansions africaines et des onomatopées très syncopées, hein, c'était des groupes vocaux. groupes vocaux d'ailleurs qui étaient vocaux non pas par choix esthétique, mais parce que ça coûtait rien, il n'y avait pas, il y avait aucun instrument à acheter. Et d'ailleurs, l'instrumentation du rock'n'roll s'explique par manque de moyens. C'est-à-dire qu'il y avait des petites églises misérables, on ne pouvait pas s'acheter d'orgue. S'ils avaient pu avoir des orgues et des grands orchestres, ils l'auraient fait, mais ils ne pouvaient pas. Donc, ils avaient un malheureux guitariste, un type avec un manche à balai et une corde, etc. Et c'est comme ça qu'un style est né. Alors, là, je n'ai pas... Vous savez, c'est impossible pour moi de réciter comme ça, comme une machine, le contenu de tout ce qu'il y a là-dedans, parce que j'en ai oublié beaucoup. Mais l'article sur le rock'n'roll montre très bien toute la diversité et la subtilité, parfois aussi, des sources du rock'n'roll. Parce que on peut retrouver des motifs classiques, enfin on pourrait gloser à l'infini là-dessus.
Je vous remercie. Merci. Bonne soirée.
Merci beaucoup.